France Inter, le grand face-à-face XXL à Saint-Brieuc.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, qu'on peut applaudir à nouveau chaleureusement. On est dans notre pays très centralisé, on est à près de 500 km de Paris, de la capitale, et un clin d'œil à la couverture du magazine Marianne cette semaine. Couverture où l'on voit ce titre « Provinciaux, ruraux, ultramarins et même parisiens ». Pourquoi ils détestent tous Paris? Ben, c'est une excellente question. En tout cas, nous avons fait le choix de faire un tour de France. Pourquoi ils détestent tous Paris, d'ailleurs, Natacha?
Il y a plusieurs explications, mais peut-être parce que Paris apparaît un petit peu comme le miroir de ce que pourrait être le reste de la France, et que ça fait pas forcément envie. Et puis parce que Paris, c'est l'État, ce sont les institutions, et qu'il y a une défiance qui s'est installée. C'est tout ça qu'on analyse dans Marianne.
Et une défiance qui est moins forte envers les élus locaux. Et tout à l'heure, nous rejoindra le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard, qui est également concerné par ces questions écologiques. On va revenir donc dans le duel sur cette semaine qui était intense en politique, peut-être déterminante pour la présidentielle. Fin des vrais et des faux suspens à droite et à l'extrême droite. Et on va commencer par une déclaration de candidature.
On persécute toujours ceux qui sonnent le tocsin, et au contraire, on est aimable avec ceux qui mettent le feu. Donc ceux qui me reprochent d'exacerber les tensions, ce sont eux qui mettent le feu en ne faisant rien depuis 30 ans, depuis 40 ans.
C'était évidemment Éric Zemmour, c'était mardi soir sur TF1 devant 7 200 000 téléspectateurs. Interview d'Éric Zemmour qui n'a pas aimé le ton de celui qui l'interrogeait, Gilles Bouleau. Mais qu'est-ce qui vous a frappé dans la fin de cette chronique d'une annonce prévue, Gilles?
Oui, l'information n'est pas que Éric Zemmour est candidat. Je crois que c'est une surprise pour personne. L'information de la semaine, c'est qu'il a raté son entrée en campagne.
Raté.
Je crois que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre à la fois les causes et les conséquences de cet échec. Je crois qu'il a raté d'abord le moment majeur. Vous l'avez dit, plus de 7 millions de téléspectateurs, le 20h de TF1, c'est le moment où il faut réussir. Or, il n'a montré qu'il n'avait ni le savoir-faire, c'est-à-dire qu'il a répondu aux questions, alors que dans une émission comme ça, on doit y aller pour faire passer des messages. Et il a montré qu'il n'avait pas l'autorité face aux journalistes, qu'il a subi l'interview. Et pour un candidat positionné, comme vous l'avez dit Ali, comme Éric Zemmour, à l'extrême droite, le fait de manquer d'autorité, de ne pas être le chef, est un handicap supplémentaire. Donc je crois que ça, c'est... Il a raté le moment majeur, mais d'une certaine manière, il avait raté aussi le moment précédent. Et donc, il est arrivé dans une configuration qui était plus difficile. Il y a eu une faute de temps. On a eu, à un moment, le sentiment d'une percée qui était irrésistible. Peut-être à ce moment-là...
Mais qui était réelle.
Qui était réelle. Pas irrésistible, mais réelle. S'il avait déclaré sa candidature dans ce mouvement-là, elle aurait été sans doute perçue différemment. Et puis, il a multiplié dans les dernières semaines les fautes de style. C'est l'arme pointée contre les journalistes, c'est la cérémonie au Bataclan, c'est évidemment le doigt d'honneur à Marseille. Et tout ça fait que je crois que cette entrée en campagne a été une entrée en campagne ratée.
Natacha Polony.
Oui, je partage l'avis de Gilles sur l'analyse notamment de cette interview. Je pense que ce qu'il y a d'intéressant à partir de maintenant, c'est d'observer d'abord ce qui va se passer dans la suite pour Éric Zemmour et pour les idées qu'il prétend incarner, et la question de savoir donc comment va se reconfigurer ou non ce champ politique de la droite et de l'extrême droite. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dynamique qui a porté Éric Zemmour ne signe pas, je pense, le fait qu'il y aurait jusqu'à 16% de gens qui adhéreraient à une vision authentiquement réactionnaire, anti-révolutionnaire, anti-lumière de la France. Je ne crois pas du tout. Je crois que la poussée d'Éric Zemmour a eu lieu malgré son fond idéologique, à la fois maurassien, réactionnaire, etc. Et que ce, sans doute, le rappel de ses positions sur Pétain, de c'est les doutes qu'il exprime, doutes totalement hallucinants sur la culpabilité, enfin sur l'innocence de Dreyfus, par exemple, sont des choses qui ont joué contre lui et qui font que finalement ces gens qui adhéraient à la part de son discours qui est le constat d'un déclin inquiétant de la France, l'idée que l'école ne jouerait plus son rôle, que la désindustrialisation nous aurait rendu dépendants, tous ces gens-là, eh bien, constatent que, hélas, celui qui prétend porter ce discours-là n'est pas l'incarnation de l'idéal républicain, et donc ça crée en fait une forme de fracture. Donc il va falloir voir comment ces gens-là vont décider d'agir à partir de maintenant.
Un mot de complément, Gilles.
Oui, sur les suites, pour autant qu'on puisse le dire. Je crois que dans la période précédente, on a sans doute péché par un excès de pessimisme, vous le disiez tout à l'heure, une percée irrésistible. Il faudrait pas aujourd'hui pêcher par excès d'optimisme et penser que le phénomène va s'affaisser aussi rapidement qu'il a progressé. Il est malgré tout à 13%. Personne n'aurait pu imaginer il y a 2 mois ou il y a 3 mois qu'Éric Zemmour soit à ce niveau-là. Et il y a des fondamentaux d'opinion, alors sans doute pas, comme le disait Natacha, sur sa vision de l'histoire, mais sans doute sur ce que sont ses préoccupations et pour partie ses convictions. J'ajoute un tout dernier mot, c'est que oui. Autant il a raté TF1, autant la vidéo sur YouTube, qui était la vraie déclaration de candidature, vue par plus de 2,5 millions de Français... Évidemment, à titre personnel, je trouve par bien des aspects grotesques, mais les messages qu'il veut faire passer sur son positionnement, ils étaient, là pour le coup, ils étaient présents. Donc, on va voir, mais je crois qu'on a eu beaucoup de surprises déjà sur cette pré-campagne présidentielle et qu'elles ne sont pas finies.
Le duel continue.
Le grand face-à-face XXL, le duel.
Michel, Xavier, Philippe viennent de m'apporter leur soutien. Je veux leur dire toute mon amitié et toute ma reconnaissance. Avec eux, avec leurs équipes, avec tous leurs élus, je rassemblerai notre famille politique.
C'est d'abord aux militants que je veux m'adresser pour leur exprimer ma reconnaissance. Il y a quelques semaines, peu de commentateurs auraient parié sur ce résultat aujourd'hui. Eh bien, ça démontre que la force de la volonté, la vérité, la clarté en politique finissent toujours par triompher.
On vient d'entendre Valérie Pécresse et Éric Ciotti. L'un des deux sera le candidat du Parti Les Républicains à l'élection présidentielle. Ça vous a surpris, Natacha ?
Ça a forcément surpris beaucoup de monde parce qu'il était totalement impossible de faire des pronostics. Alors là, nous saurons dans un peu plus de 2 heures, sans doute, quel est le candidat des Républicains à l'élection. Le ou la, bien sûr. Alors, on ne va pas se mentir. Hein. A priori, Valérie Pécresse, sur le papier, semble mieux placée. Et là encore, tous ceux qui ont dit « Regardez, 25%, plus de 25% à Éric Ciotti, c'est la preuve que la droite française a basculé dans quelque chose de profondément réactionnaire », il faut quand même reconnaître que les 3/4 de cet électorat très petit que sont les militants LR ont choisi justement des candidats qui, pour le coup, se ressemblaient relativement sur le positionnement. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est le fait que pour la première fois, on a eu des candidats, les Républicains, qui d'abord sont allés sur des positions sur les questions d'immigration de façon quasi obsessionnelle et assez caricaturale, mais surtout, parce que ça avait déjà été fait, puis quand on regarde le programme du RPR des années 90, on y trouve la préférence nationale, l'immigration zéro, etc. La nouveauté, c'est pas ça, me semble-t-il. La nouveauté, c'est que tous se sont sentis obligés de dire que l'Union européenne constituait un blocage. Je pense qu'ils n'en pensent pas un mot. Mais ils se sont sentis obligés de le dire. Et ça, c'est un mouvement dont il va falloir voir s'il aura des conséquences ou pas sur cette part de l'opinion.
Gilles.
Oui, dans quelques heures maintenant, les Républicains auront un candidat. Et c'est un premier succès pour ce parti. La primaire s'est tenue. Elle a rassemblé, y compris ceux qui étaient en dehors de ce parti il y a peu. C'est un premier succès. Et son déroulement, quand on le compare aux primaires qui ont eu lieu dans les élections présidentielles précédentes, ont montré des débats qui étaient maîtrisés et donc une unité qui peut être préservée après la campagne. D'autant qu'ils ont fait, d'ailleurs je ne m'en étais pas aperçu avant ces derniers jours, un choix très original qui est de ne pas avoir de campagne de l'entre-deux tours. Les deux tours se sont succédés et ça évite la cristallisation entre deux camps. Donc ça, je trouve que c'est plutôt réussi pour les Républicains. Après, il y a trois phénomènes qui me frappent beaucoup. Le premier, c'est la relégation de ce parti. Songez, il y a exactement 5 ans, à la même période, lorsqu'il y a eu la primaire, 4 millions de Français se sont déplacés, là c'était 100 000. Tout le monde pensait que c'était le futur président de la République qui était élu. Là, quel que soit celui ou celle qui va être choisi, il est aujourd'hui quatrième dans les sondages. Deuxième phénomène, c'est la rétraction de ce parti, rétraction sociologique. Je me suis livré hier, pour Ali qui adore ça, au calcul suivant. Vous avez sur 100 électeurs des Républicains aujourd'hui, vous en avez 3 qui ont entre 18 et 24 ans, 66 qui ont plus de 60 ans. Donc rétraction sociologique et rétraction idéologique. Il n'y a pas une vision globale de la société qui a été développée. Ce sont les mêmes thèmes qui sont revenus. Enfin, ça a été souligné 1000 fois, donc je ne m'y attarde pas. Droitisation beaucoup plus importante qu'auparavant. Et c'était évidemment très frappant.
Pour terminer, Natacha.
On peut ajouter un tout petit mot sur Valérie Pécresse, si c'est elle qui est désignée. C'est tout de même celle qui se situait le plus au centre de l'ensemble des candidats. Et cela va constituer quelque chose de beaucoup plus compliqué pour Emmanuel Macron. C'est sans doute le scénario qu'il redoute le plus. Bien plus que Xavier Bertrand, avec qui il a joué le combat viril. Pourquoi ? Parce que Valérie Pécresse est en fait totalement sur son créneau. Si on accepte les positions qu'elle a prises là, pendant cette campagne, sur le reste de son parcours politique, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette. En revanche, elle dispose d'un élément qui est devenu quelque chose qui compte dans une campagne, c'est une femme. Et donc, quitte à prendre le même, certains peuvent se dire que le même avec une petite nouveauté, et c'est ça qui est très redouté du côté de la Macronie, et ce qui peut-être faire bouger là aussi quelques lignes.
Vous parliez de la jeunesse absente chez les Républicains, vous parliez aussi des thèmes qui ont été abordés pendant cette pré-campagne. On va faire l'inverse, on va justement parler des nouvelles générations, de l'écologie, on va en débattre sur France Inter dans ce grand face-à-face XXL avec notre invité Cyril Dion qui va nous rejoindre dans un instant.